VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge et Bagassi Koura.
Bienvenue à l'édition de ce vendredi 13 mars 2015, à la une ce soir.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir libéré la dernière zone occupée par Boko Haram dans l'Adamawa.
Exclusivité VOA, des mercenaires interviennent au Nigeria dans la lutte contre les islamistes, nous a confirmé hier l'armée nigériane.
Le groupe État islamique a accepté l'allégeance de Boko Haram, c'est selon un message du porte-parole de l'organisation extrémiste au Moyen-Orient.
Étant donné le changement dans la nature des actions et l'ampleur qu'a pris le groupe Boko Haram, il est quasiment certain qu'il y a eu des conseillers militaires pour apprendre au groupe Boko Haram la prise de territoriale et le contrôle des territoires sur lesquels il s'installe, puisqu'auparavant ce n'était absolument pas la stratégie du groupe Boko Haram.
L'expert en terrorisme Mathieu Guider.
Un suspect de l'attentat de Bamako a été tué ce matin par l'armée malienne.
Et puis au Rwanda, lourde peine de prison pour 11 personnes accusées d'avoir voulu renverser le président Paul Kagame.
En Mauritanie, 3 militants anti-esclavage ont été libérés hier après avoir écopé d'une peine avec sursis.
Et nous aurons bien sûr la minute écho et les sports avec Nicolas Pinot. Mais d'abord, le journal.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir libéré Madagali, la dernière zone occupée par Boko Haram dans l'état de l'Adamawa. Dans un entretien mercredi avec La Voix de l'Amérique, le président nigérian Goodluck Jonathan prédisait que le groupe extrémiste perdrait ses derniers bastions dans les états de l'Adamawa et de Yobe d'ici la semaine prochaine. Une offensive multinationale a chassé les islamistes armés de plusieurs villes qu'ils occupaient dans le nord du Nigeria. Les forces du Tchad, du Niger et du Cameroun ont joué un rôle de premier plan dans les combats.
Des mercenaires interviennent au Nigeria dans la lutte contre Boko Haram. C'est une exclusivité VOA. Des responsables de l'armée nigériane nous ont confirmé hier sous anonymat que des soldats étrangers s'engagent dans des combats à la fois aériens et au sol contre le groupe extrémiste Jacaristide.
Des mercenaires étrangers originaires d'Afrique du Sud et d'anciennes républiques soviétiques comme l'Ukraine sur le territoire nigérian pour appuyer l'offensive contre Boko Haram. Un soldat nigérian a même vu quelques-uns des étrangers à bord d'avions de combat décollant de l'aéroport de Maïdougouri. Un peu plus loin, près de la ville de Bama, mercenaires et troupes nigérianes planifiaient ensemble cette semaine une opération commune contre le groupe armé. Confidence d'un caporal à la VOA, mais par manque de communication, un officier nigérian a fini par ouvrir le feu sur deux véhicules blindés conduits par ceux que le caporal appelle des soldats blancs, pris pour des hommes de Boko Haram. L'un des conducteurs a été tué et l'offensive a finalement annulée. Les Sud-Africains, eux, s'en vont en guerre seuls, ne veulent pas être aux côtés des militaires nigérians, d'après un sergent de l'armée nigériane. Des pilotes sud-africains ont également été vus en mission de combat à bord d'appareils nigérians ou de leur propre pays. Rappelez-vous, cette semaine, un militaire privé sud-africain a été tué dans le nord-est du Nigeria, mais aucun commentaire de Pretoria.
Un suspect de l'attentat à Bamako a été tué par l'armée malienne. Des sources militaires indiquent qu'un élément du commando auteur de l'attentat dit de La Terrasse a été abattu ce matin. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
Dans un premier temps, les militaires ont été obligés de sécuriser les voisins en les faisant évacuer les lieux. Un immeuble à Sokorodi, en commune du district de Bamako, comportant plusieurs appartements, avait été visé. Le suspect n'a pas voulu obtempérer, malgré qu'il soit isolé. Les militaires précisent qu'il a piégé sa porte avec des grenades avant de faire des tirs en direction des éléments de l'unité spéciale. C'est ainsi que de 20h à 1h du matin, il n'a pas voulu se rendre et continuait de faire des tirs sur les militaires venus l'arrêter. Finalement, la riposte de ces derniers lui a été fatale. Les éléments antiterroristes et ceux de l'unité spéciale sont rentrés dans sa chambre. Selon les militaires maliens, les armes retrouvées chez lui correspondent à la série de celles retrouvées dans la cache d'armes découverte à Samanko, dans la périphérie de la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Rwanda, un tribunal a infligé des peines allant de 10 ans de prison à la réclusion à perpétuité à 11 personnes accusées d'avoir voulu renverser le président Paul Kagame. Camille Grosdidier.
Selon la justice rwandaise, ces personnes opéraient dans le district de Musanze, dans le nord du pays. Elles étaient accusées de complicité avec les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Kigali, cette milice comprend des Hutus qui auraient participé au génocide de 1994 au Rwanda. Six personnes ont écopé d'une peine de prison à vie, dont Tsengiyumva Jotan, ancien FDLR, et deux femmes accusées de trafic d'armes. Cinq autres ont reçu des peines de 10 ans de réclusion et 3 ont été acquittées. Jotan aurait reconnu avoir cherché à renverser le gouvernement, même s'il n'a pas mené à bien son projet. Les détenus devaient également répondre d'autres chefs d'accusation, dont l'introduction illégale d'armes dans le pays, le meurtre, les coups et blessures délibérés et le lancement de grenades explosives. Toujours à Musanze, 16 autres personnes sont actuellement jugées pour crimes contre la sécurité de l'État. Le verdict est attendu d'ici à la fin du mois de mars.
Un agent de santé américain infecté par Ebola en Sierra Leone a été admis dans un hôpital de l'État du Maryland, transporté sur un vol dans l'isolement. Par ailleurs, une soignante de l'armée britannique, également infectée par Ebola en Sierra Leone, a été rapatriée en Grande-Bretagne, ainsi que 2 travailleurs qui ont été en contact étroit avec elle.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est en Égypte pour un sommet économique visant à attirer davantage d'investissements étrangers dans le pays. La conférence de 3 jours se tient sous haute sécurité à Sharm el-Sheikh, dans le Sinaï, foyer de l'insurrection qui a contribué à paralyser l'économie égyptienne. Des centaines de chefs d'entreprise et d'officiels gouvernementaux participent à la conférence internationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces de sécurité irakiennes continuent leur offensive pour reprendre Tikrit au groupe État islamique. Plus de 30 000 soldats irakiens et des membres des milices chiites soutenues par l'Iran encerclent la ville et ont repris plusieurs secteurs.
Human Rights Watch déplore que les restrictions de voyage imposées par le gouvernement ukrainien retardent sérieusement la livraison de l'aide médicale dans les zones contrôlées par les rebelles dans l'est du pays. Dans un communiqué, ce vendredi, l'ONG explique avoir eu des entretiens téléphoniques et des interviews en personne avec des travailleurs médicaux et des patients sur le terrain.
Et on reparle de Julian Assange. La justice suédoise veut finalement interroger le fondateur de Wikileaks à Londres au sujet des allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. Pendant longtemps, les juges avaient refusé l'idée de l'interroger à Londres, insistant pour qu'il soit extradé en Suède. Les faits contre lui remontent à 2010. Un avocat de Julian Assange a salué l'initiative, disant que c'est ce qu'il demandait depuis plus de 4 ans. Depuis 2012, Assange est réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres.
Et puis la ville américaine de Ferguson a de nouveau vécu une nuit sous tension après des tirs contre des policiers vivement condamnés par le président Barack Obama qui a dénoncé une violence inacceptable commise par des criminels, Nicolas Pineau.
La violence contre la police est inacceptable, a réagi Barack Obama sur le compte Twitter de la Maison-Blanche. Le chemin de la justice est un de ceux sur lesquels nous devons marcher tous ensemble, a-t-il ajouté. S'exprimant plus tard sur la chaîne de télévision ABC, le président américain a réitéré que ces tirs étaient inexcusables, rappelant qu'ils étaient condamnés par ceux qui ont manifesté pacifiquement contre les mauvais traitements de la police de Ferguson. « Ce sont des criminels, il faut les arrêter », a répété Barack Obama. Quant au ministre de la Justice, Eric Holder, il a pour sa part condamné une attaque lâche et répugnante en évoquant un voyou cherchant à semer la discorde. Dans la soirée, une centaine de jeunes manifestants s'étaient à nouveau rassemblés devant le poste de police de Ferguson, scandant des slogans et bloquant par moments la rue principale. Jeudi, la municipalité de Ferguson avait annoncé que la police du comté de Saint-Louis et la police des routes du Missouri prenaient le commandement de la sécurité dans la ville. Tout avait été déclenché cette semaine par la publication par le ministère américain de la Justice d'un rapport accusateur montrant l'inégalité de traitement réservée par la police aux Noirs par rapport aux Blancs à Ferguson. Une série de 5 démissions en cascade plus 1 licenciement avait suivi, dont celle du chef de la police de Ferguson.
Merci beaucoup Nicolas Pineau. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et à présent, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion.
L'Égypte organise à partir de ce vendredi une conférence économique internationale pour attirer les capitaux étrangers. Selon l'AFP, les experts n'attendent ni promesses de dons ni annonces fracassantes de cette conférence intitulée « Égypte, l'avenir ». La grande majorité des contrats ou projets qui y seront signés ou annoncés sont déjà sur les rails de plus ou moins longue date. La conférence commence aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, station balnéaire du Sinaï en bordure de la mer Rouge, et doit s'achever dimanche. En République démocratique du Congo, une solution est en vue. Dans le conflit sur les sites miniers au nord Kivu, en territoire de Walikale, les artisans locaux étaient en conflit ouvert avec l'exploitant industriel autorisé par le gouvernement. Le député Juvenal Monubo a pris part à la concertation organisée par le gouvernement congolais.
Les ministres croient au dialogue et espèrent que les tensions qui ont eu lieu entre les creuseurs et la société MPC trouveront une solution. Ces tensions, on va y mettre fin à travers les dialogues, à travers un protocole d'accord qui doit être signé. S'il y a des problèmes, on va trouver des solutions dans les dialogues.
Juvenal Monubo, député de Walikale, au micro de nos confrères de Radio Okapi. Et l'Ukraine a commencé à recevoir ce vendredi la première tranche de 5 milliards de dollars du prêt du Fonds monétaire international dans le cadre d'un programme d'aide de 17,5 milliards de dollars sur 4 ans. La bonne nouvelle a été confirmée à l'AFP par le ministère ukrainien des Finances. 2,2 milliards de dollars vont arriver sur le compte du gouvernement à la Banque centrale et 2,8 milliards de dollars directement sur le compte de la Banque centrale.
Merci beaucoup Jean-Roger pour la Minute Éco.
Voilà, c'est l'heure des sports et on accueille Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagassi.
On commence par du football africain avec la CAN des moins de 20 ans au Sénégal.
Pas de match aujourd'hui. Hier, le Ghana et le Mali se sont qualifiés pour les demi-finales. Les jeunes Ghanéens ont battu les Zambiens 2 buts à 1. Avec 6 points, les Black Starlets occupent la première place du groupe B à égalité avec le Mali. Les Aiglons ont dû aussi remporter une précieuse victoire hier. Les juniors maliens ont battu leurs homologues sud-africains 2 buts à 1. Conséquence, le Mali compte aussi 6 points et se retrouve avec le Ghana dans le dernier carré. A noter Bagassi que le Ghana et le Mali sont automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Nouvelle-Zélande. Avec 0 point chacun et éliminé, l'Afrique du Sud et la Zambie joueront dimanche à Dakar pour l'honneur.
Et en Ligue africaine des champions, le tenant du titre et les grands ténors du continent entrent en piste.
L'entente sportive de Sétif, champion d'Afrique 2014, remet son titre en jeu contre le Real de Banjul. Autre cadre, le tout-puissant Mazembe face au Mamelodi Sundowns, c'est un club sud-africain. Al Ahly d'Égypte se déplace à Kigali chez la PR. Coton Sport de Garoua face à Sanga Balende, le club de la RDC. Quant au Manga Sport du Gabon, il accueillera le Stade malien. Ces 16e de finale aller offriront également deux autres chocs. Al Merrikh du Soudan contre Kabouskor, le club angolais. Et puis les Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud contre le Raja Casablanca.
Et cette fois-ci en Allemagne, Joachim Löw prolonge au poste de sélectionneur en Allemagne jusqu'au Mondial 2018.
On savait que les discussions étaient très avancées entre Löw et la Fédération allemande pour une prolongation. Celle-ci a été officialisée ce vendredi. Le sélectionneur de la Mannschaft, championne du monde au Brésil, dont le contrat actuel s'achevait avec l'Euro 2016, eh bien, il restera à la tête de la sélection jusqu'au Mondial 2018 en Russie.
Et enfin, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Cleveland s'est imposé sur le parquet de San Antonio 128-125 grâce à 57 points de Kyrie Irving, record personnel dont 11 points inscrits en prolongation. Les autres résultat hier soir, les Lakers de Los Angeles qui s'inclinent à domicile contre New York 94-101. Précieuse victoire en prolongation d'Indiana face à Milwaukee 109-103. Et puis Washington ici dans le district de Columbia qui s'impose face à Memphis 107-87. Enfin Utah a dominé Houston 109-91.
Merci Nicolas Pino.
Merci beaucoup pour ces sports pour la première partie de notre magazine. Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et vous êtes en compagnie donc de Nathalie Barge et de Bagassi Koura. Nous allons donc bientôt passer à la seconde partie de notre magazine. Merci à tous. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui avec Nathalie Barge et Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Bagassi Courant, votre compagnie, place au dossier du jour.
On commence par le groupe qui s'est fait appeler État islamique, qui a donc accepté l'allégeance de Boko Haram au Nigeria. Selon un discours diffusé hier sur les médias sociaux du porte-parole de l'organisation extrémiste au Moyen-Orient, Abu Mohamed Al-Adnani, dans son discours de 28 minutes, Adnani menace également de détruire des monuments en Occident et appelle au djihad dans plusieurs villes et pays du monde, rapporte le groupe de recherche sur le terrorisme CITE, qui a traduit la vidéo pour une analyse. Nathalie Barge a joint l'expert en terrorisme islamiste, Mathieu Guider.
L'annonce de l'acceptation de l'allégeance par l'organisation de l'État islamique s'inscrit dans le cheminement classique, c'est-à-dire dans les modalités habituelles d'alliance entre les groupes djihadistes. Il y a d'abord une phase d'adaptation idéologique, d'adaptation opérationnelle et puis de prise de contact entre les organisations. Ensuite, vous avez une déclaration d'allégeance du chef de l'organisation. Cette déclaration d'allégeance ne devient effective, c'est ce qui s'est passé avec Boko Haram, qu'une fois que l'organisation ou le chef de l'organisation pour lequel cette allégeance a été faite, accepte cette allégeance.
Est-ce que cela veut dire qu'il y avait déjà un lien entre les deux, à savoir notamment des combattants qui s'entraînaient sur le terrain des autres au niveau des formations ?
Ce que nous savons des déclarations d'allégeance, à la fois dans le passé, concernant d'autres organisations telles qu'Al-Qaïda, mais aussi de l'État islamique. Par exemple, l'allégeance du groupe Ansar Bayt al-Maqdis dans le Sinaï et le groupe de Derna par rapport à l'État islamique. C'est qu'au cours des mois qui précèdent la déclaration d'allégeance, il y a, en règle générale, l'envoi d'émissaires de part et d'autre, c'est-à-dire que l'organisation qui fait allégeance envoie en général des combattants, l'organisation de l'État islamique envoie des conseillers, la plupart du temps militaires et politiques, qui ont pour objectif de recadrer à la fois les actions du groupe et sa communication. Et donc, on peut s'attendre à ce que ce processus soit intervenu pour Boko Haram, puisqu'on a constaté au cours des derniers mois un changement de stratégie, de mode d'opération et de communication du groupe Boko Haram, avec quasiment une stratégie mimétique qui imite presque point par point ce que fait l'État islamique en Irak et en Syrie.
Boko Haram subit des défaites aux Nigériens et c'est la même chose en Irak du côté du groupe État islamique. Est-ce que cela veut dire finalement que les puissances occidentales avaient mis leur service de renseignement en marche et étaient au courant de cela ?
Le service de renseignement des pays occidentaux avait compris depuis le début qu'il y avait une mouvance nouvelle qui était en train de remplacer Al-Qaïda avec cette superstructure terroriste de l'organisation de l'État islamique qui s'est étendue petit à petit à d'autres territoires. Aujourd'hui, ils ne pouvaient pas ne pas agir face à une extension aussi rapide et aussi importante de l'organisation dans le continent africain, puisqu'aujourd'hui cette organisation possède une présence militaire effective à la fois dans la péninsule du Sinaï, en Libye, au Sahel, mais aussi en Afrique centrale.
Et pour le cas de Al-Shabaab et notamment les ADF Nalou en Afrique centrale ?
Il reste en Afrique quelques rares groupes qui ne sont pas affiliés à l'État islamique. En particulier, les deux emblématiques sont les Shabaab somaliens, affiliée à Al-Qaïda, et l'organisation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui également, même si elle a perdu l'essentiel de ses troupes qui se sont réfugiées dans un autre groupe qui s'appelle Mourabitoun, eh bien, reste affiliée officiellement à Al-Qaïda.
Voilà, c'était l'islamologue Mathieu Guider. Il était joint à Toulouse, en France.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
En Mauritanie, trois militants anti-esclavage ont été libérés hier après avoir écopé d'une peine avec sursis. Ils avaient été arrêtés à Rosso alors qu'ils menaient une campagne pour dénoncer l'esclavage. Le porte-parole de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, le docteur Saad Ould Loulaid, revient sur son incarcération au micro de Salwa Jafari.
Les conditions ne sont pas tellement jolies comme d'habitude en Mauritanie et en Afrique en général. On a resté dans les prisons plus de 122 jours, ça veut dire que 4 mois. C'est vrai, on était dans des conditions très difficiles sur le plan moral, physique et sanitaire. Et les gens, on a subi beaucoup d'agressions et beaucoup de tortures. Et souvent, surtout après le procès, souvent il vient dans des heures très tardives et il amène les militants avec des cordes et avec des menottes. Il les met dans des petites pièces très restreintes. Il refuse de nous donner le manger, il refuse de nous amener à l'hôpital pour prendre les soins. Surtout moi, j'avais des diabètes, des tensions, quelque chose comme ça.
Qu'est-ce que le gouvernement vous reproche exactement?
Il nous approche que nous sommes des militants pour l'abolition de l'esclavagisme. C'est tout. Oui, il refuse. Parce que ces gens-là, ils sont là depuis 1023 à nos jours, puisque 9 siècles. C'est les mêmes pratiques. Mais nous, en tant que citoyens, on sait très bien que ce gouvernement, c'est un gouvernement pour raciste et qui menace l'unité de son peuple et qui fait beaucoup de pratiques qui sont contradictoires avec les règles des droits de l'homme, avec les règles de la démocratie.
Pourtant, en 2014, il y a eu pas mal d'avancées de ce point de vue avec une nouvelle loi anti-esclavagiste. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement fait marche arrière en remettant en prison les militants anti-esclavagisme?
Voilà, en 2014, nous avons vu la feuille de route que l'État mauritanien a accordée avec la communauté internationale, précisément avec la Nation Unie. Mais cette feuille de route, ça restait dans l'étoile. Personne qui a appliqué ça, seulement pour avoir les financements et les fonds internationaux et seulement pour blesser la communauté internationale.
Le docteur Saad Loulay, porte-parole de l'IRA, mouvement anti-esclavagiste mauritanien, répondait aux questions de Claire Morin-Gibourg.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Au Tchad, c'est par centaines que des étudiants de l'université de N'Djamena sont sortis pour accompagner le corps de leur camarade Daouda Massing, tué lundi pendant les manifestations contre le port du casque pour motocyclistes à N'Djamena. Les étudiants étaient affligés d'autant plus qu'ils n'ont pas pris part aux manifestations. C'est en tout cas ce que nous dit le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Nadjo Keïna. Il a été interrogé par Chaloua Djafari.
Bon, je crois que les étudiants de l'université de N'Djamena, de l'Institut Sahel Saharan d'Iriba, de l'Institut national de pétrochimie de Mao et l'École normale supérieure de N'Djamena ont été victimes d'une agression de la part des forces de l'ordre le lundi. Et les étudiants n'étaient pas concernés par la manifestation. C'était les élèves qui manifestaient. La police a réprimé cette manifestation et les élèves sont allés se réfugier au sein des facultés. Et la police a suivi les élèves jusqu'au sein des facultés, entrer même dans les salles et les amphis où les étudiants étaient en train de composer les examens. Et dans les échanges de chiffonnés, nous avons déploré plusieurs blessés et nous avons perdu un étudiant en deuxième année de droit. Et le Bureau national des étudiants s'est réuni et nous avons déclenché une grève nationale. Et nous demandons à ce que la lumière soit faite sur ces événements, situer les responsabilités et mener une enquête indépendante pour déterminer les auteurs de ces événements pour pouvoir prendre des sanctions et les traduire en justice.
Vous dites que les étudiants, c'est-à-dire les étudiants universitaires, n'ont pas manifesté. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont pour le port du casque?
Bon, non, parce que c'est ça, mais les étudiants ne sont pas contre cette mesure parce qu'aucun étudiant n'a manifesté contre le port du casque. Nous sommes victimes d'une agression parce que nous n'étions pas contre et quand un étudiant m'a manifesté, nous étions simplement en train de faire nos examens et nous avons subi une agression parce que les étudiants n'étaient pas contre cette mesure. C'est les élèves qui manifestaient, ça ne regardait pas les étudiants.
Le gouvernement a décrété la fermeture des écoles et de l'université de N'Djamena. C'est un peu le chaos dans la capitale. Comment voyez-vous l'issue de cette crise?
Bon, comme nous l'avons dit au Bureau national, nous sommes ouverts au dialogue. Et nous demandons que la lumière soit faite et les responsabilités doivent être situées. Donc nous attendons que le gouvernement puisse prendre en compte ces doléances. Et je crois qu'une fois la lumière faite et que les responsabilités sont situées, nous pouvons ordonner la reprise des cours. Mais tant que la lumière n'est pas faite et que les responsabilités ne sont pas situées, il n'y aura pas de reprise des cours. Et je crois que le Bureau national a déclaré une grève sur le plan national où toutes les sections de l'enseignement supérieur sont en train d'observer.
Enfin, vous êtes en contact direct avec les étudiants au cas où la fermeture des établissements scolaires se poursuit. Quel sera l'impact sur le cursus des élèves?
Je crois que l'année en cours sera vraiment touchée, d'autant plus que nous avons perdu assez de heures de cours. Et cela va vraiment jouer sur le rendement même universitaire et scolaire des élèves et des étudiants.
Ouais. Voilà, donc merci beaucoup. C'était le docteur, le président de l'Union nationale des étudiants tchadiens, Najo Kania.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
À peine décerné il y a quelques mois, les choses sérieuses commencent déjà pour le prochain prix Nobel de la paix. On connaît déjà le nom des 276 nominés qui espèrent être récompensés en fin d'année par le jury du fameux prix. Il y a un Africain, il s'appelle Victor Ochen, il a 33 ans et c'est le plus jeune Africain jamais nominé, Michel Joseph.
Il n'est pas très fréquent de recevoir un appel vous informant que vous êtes retenu parmi les nominés pour le prix Nobel de la paix. C'est pourtant ce qui est arrivé à Victor Ochen. L'American Friends Service Committee l'a choisi, lui et son organisation, Africa Youth Initiative Network, pour leur travail avec les victimes de guerre dans le nord de l'Ouganda. Victor était à La Haye en janvier lors de la première comparution de Dominique Ongwen, l'un des chefs de la LRA arrêté en Centrafrique. Cette comparution lui prit beaucoup de son temps et de son énergie, si bien qu'il a carrément oublié de rappeler à l'époque. Après avoir finalement pris le temps de rappeler les Américains, il s'est entendu dire ce que chaque militant associatif rêve d'entendre.
Ils m'ont dit, en raison de votre travail, nous croyons beaucoup en vous et nous sommes convaincus de vos bonnes intentions. Pour ces raisons, nous sommes heureux de vous annoncer que nous vous avons choisi pour être nominé pour le prix Nobel de la paix.
Ochen est resté sans voix. Dans le passé, l'American Friends Service Committee a nominé Desmond Tutu, Jimmy Carter ou même Martin Luther King. Pour Victor Ochen, cette nomination intervient au parfait moment, après l'arrestation de Dominique Ongwen. Elle porte l'attention du monde sur les victimes de la guerre dans le nord de l'Ouganda.
We needed the world to understand.
Nous avions besoin que le monde comprenne notre appel et notre plaidoyer et les aspirations des peuples qui ont souffert des violations des droits de l'homme. Souvent, on s'attarde plus sur les auteurs des violations que sur l'attention et la réponse à apporter aux victimes.
Ochen lui-même est une victime. Il a dû fuir la guerre. Cela lui permet de comprendre facilement le traumatisme des victimes avec lesquelles il travaille tous les jours. Prix Nobel ou non, Ochen espère que sa nomination sera un signal positif pour les jeunes vivant dans les zones de conflit. Il ne faut jamais perdre espoir, selon lui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel des principaux titres de l'actualité.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir libéré Madagali, la dernière zone occupée par Boko Haram dans l'état de l'Adamawa.
Exclusivité VOA, des mercenaires interviennent au Nigeria dans la lutte contre Boko Haram. C'est ce qu'ont confirmé hier des responsables de l'armée nigériane à la Voix de l'Amérique.
Au Rwanda, un tribunal a infligé des peines lourdes à 11 personnes accusées d'avoir voulu renverser le gouvernement du président Paul Kagame.
En Mauritanie, 3 militants anti-esclavage ont été libérés hier après avoir écopé d'une peine avec sursis. Ils avaient été arrêtés à Rosso alors qu'ils menaient une campagne pour dénoncer l'esclavage.
Et puis un agent de santé américain infecté par Ebola en Sierra Leone a été admis dans un hôpital de l'état du Maryland pour un traitement.
Et le secrétaire d'État américain John Kerry est en Égypte pour un sommet économique visant à attirer davantage d'investissements étrangers dans le pays. Et nous arrivons au terme de cette émission. À la mise en onde, c'était Issia Kaba. À la présentation, c'était Bagassi Koura et Nathalie Barge. Restez avec nous, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako.
Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.